Je suis pour le métissage de la société, c'est-à-dire que je trouve que la société française, son avenir, sa beauté, c'est le mélange. Ah, c'est ça, ça craint. Quand j'étais ado, hein, moi, quand je croisais une voiture de police, franchement, j'avais peur.
Ça me révolte. La vérité, ça me révolte. La vérité, quand vous accompagnez votre enfant à l'école, comme je l'ai fait, dans une ZEP, et que vous voyez les gosses, et que vous dites que les trois quarts d'entre eux, leur destin, il est presque écrit. Pas leur destin individuel, ils ont encore des chances, mais leur destin scolaire, social, c'est un peu écrit. Et que, année après année, à chaque rentrée, vous les voyez marginalisés, vous en voyez moins, vous voyez qu'ils décrochent. C'est révoltant.
Alors, votre solution.
Je me suis fait une conviction. Il n'y a pas de solution pour les uns qui ne soit pas une solution pour les autres. C'est un plan France, un plan République qu'il faut, pas un plan banlieue.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mamadou et Binta, les conteurs de belles histoires. Alors aujourd'hui, on va à la rencontre de Homer, trentenaire et start-upper. Sa société, Cansoft, propose à la fois des services de conseil en système d'information et des prestations de développement. Ce premier rôle modèle est entrepreneur. Et même si je suis convaincue que tout le monde ne peut pas être entrepreneur et ne doit pas être entrepreneur, je voulais partager avec vous un bout du parcours d'Homer, car derrière l'entrepreneur se cache un garçon formidable avec un grand cœur. On parle aussi beaucoup de transmission dans cet épisode, de ce que sa mère, ses frères et ses sœurs lui ont transmis et de ce qu'il souhaite, à son tour, transmettre à ses enfants. En lançant le podcast, il y a eu pas mal d'interrogations autour du nom qu'on allait lui donner. L'une des options était le cercle des super-héros invisibles. Il y avait la notion de super-héros à laquelle je tenais beaucoup, parce que dans toutes les histoires qu'on nous a racontées, j'ai à chaque fois vu des qualités insoupçonnées et déterminantes. Même si Homer est censé être notre super-héros du jour, vous comprendrez vite qu'il y a un autre, ou plutôt une autre, super-héros dans cet épisode. C'est Madame Javed, la maman d'Homer. À travers deux anecdotes, Homer nous montre d'où il tient sa force et sa détermination. Alors, tu as dit que tu avais un parcours pas parfait. Ça veut dire quoi un parcours pas parfait ?
Pas parfait.
Parce que franchement, moi je suis là, tu m'as invité dans tes bureaux et tout. Je me dis, franchement, le gars aime bien quoi. Un petit start-upper, beau gosse.
Bah écoute.
Beau gosse, en plus, faut que je rajoute parce qu'eux ils voient pas en fait. Moi je suis en face de toi, les petites lunettes à la mode, le petit gilet, la petite chemise. Parce que c'est une fashion victime en plus, Homer.
Non, loin de là, loin de là. Alors là, pas du tout. Vas-y. C'est toi l'exemple. c'est sur toi qu'il faut prendre exemple. Parce que
sur la mode.
Bah en plus.
Ne sois pas modeste.
J'ai fait un bac S européen. Ensuite, je me suis lancé dans la médecine.
Ouais.
Donc, je me suis lancé dedans et j'ai compris que ce n'était pas fait pour moi. J'ai arrêté au bout d'un an et demi. Et ensuite, je me suis lancé dans la finance. Du coup, j'ai fait mon master à Schema Business School et en finance d'entreprise et management. Et quand je suis arrivé au bout de mes études, j'ai réalisé que finalement, j'ai fait certes la finance, mais ce n'est pas ce qui m'intéressait le plus.
Ouais.
Et du coup, option 2, l'informatique. Et je me lance dans l'informatique, dans l'entrepreneuriat en plus directement. J'ai pris un très gros risque parce qu'en plus, c'était assez spécial. En fin d'études, tu dois savoir comment ça se passe. T'as tous
jamais d'habitude, tu lances ton truc direct, quoi.
Ouais, tous les camarades de classe, ils t'en parlent, ils sont à fond, ils sont en train de chercher des stages de fin d'études.
Ils vont dans les cabinets, tout
ouais,
ça.
Et puis même pendant les cours. Hein, pendant les cours, ils étaient sur leur ordinateur, ils étaient en train de postuler. Moi, je voyais leurs écrans, je dis « Ouh là là, ça me faisait peur. » Je me dis « Est-ce que je prends une bonne décision ou pas ?» Mais et du coup, moi, ils me demandaient « Alors, t'as postulé, t'as fait quelque chose, etc. » Et je leur disais « Bah écoute, moi, je me lance dans l'entrepreneuriat. Je veux me lancer en plus dans un projet informatique, etc. » Parce qu'au départ, le but, c'était pas de lancer une société de développement informatique, c'était de lancer un produit informatique.
D'accord, ok.
Qui permettrait en fait aux personnes de développer leur propre application mobile. Enfin, c'était assez complexe. Et du coup, je leur parlais de mon idée, de dire « Ah, c'est super, etc. » Mais tu penses pas que c'est mieux de rester d'abord dans la finance, prendre de l'expérience, etc. et de se lancer ensuite ? Je dis bah non, parce que l'idée, je l'ai là et je suis jeune, je prends le risque maintenant. C'est pas plus tard que j'irai prendre des risques.
C'est vrai.
Surtout que c'est un. C'est vrai que c'est un cercle vicieux. Quand tu rentres dans le monde du travail et que tu es employé, tu rentres dans une zone de confort. En vrai,
Ouais, c'est
ça,
vrai.
tu
Ah
rentres un
bah
peu
c'est
dans une
vrai.
zone de confort et tu dis bon, j'ai mon salaire qui rentre, j'ai mes collègues, on est tous un peu dans le
Même
même
bateau.
bateau et puis on se comprend tous, on est dans la même galère en fait. Et du coup, tu continues parce que ça devient normal pour toi en fait
C'est
de
vrai.
vivre ça.
C'est vrai, c'est vrai.
Et moi, je me suis dit, si je rentre dedans, j'aurai du mal à m'en sortir, à ressortir de là-dedans. Mais j'aurais pu avoir une très belle carrière aussi dans ça, hein, je sais pas. Et j'ai dit non, il faut pas que je rentre dans cette zone de confort, il faut que je lance mon idée tout de suite.
En mode aventurier, quoi.
Aventurier, voilà. En fait, on n'a pas beaucoup d'âge de différence avec mes frères. Donc on est comme des potes, on a les mêmes délires, on a les mêmes sujets de conversation.
Et toi, t'es le combientième dans la fratrie?
Je suis le plus petit en fait.
T'es le plus petit?
Ouais, en fait, j'ai deux grands frères et deux grandes sœurs.
D'accord, ok.
On prenait beaucoup soin de moi, etc. On m'a beaucoup guidé.
Ouais.
On m'a beaucoup guidé, même dans mon parcours scolaire, hein, par exemple. Dans tout ce que je fais, je discute avec mes frères. C'est aussi mes conseillers. En fait.
D'accord, ok.
Même dans Cansoft aujourd'hui, quand je dois prendre une décision et que je dois faire quelque chose avec un client, un plan d'action ou quelque chose, j'en discute avec mes frères. Et ils me disent, fais comme ça, tu devras peut-être faire comme ça, etc. Donc ils ont une influence sur moi, mais très forte. C'est peut-être ça qui fait ma force aussi. C'est-à-dire que je suis pas uniquement concentré dans mon business et je me dis, c'est moi qui ai raison, c'est pas autrement. Non, j'ai besoin d'aller demander un peu des avis à mes frères. En fait, je suis le plus petit. Donc en étant plus petit, c'est vrai que des fois, je m'affirmais pas sur tous les points, dans tous les débats familiales, etc. Mais j'observais beaucoup. Depuis tout petit, j'ai beaucoup observé, en fait, à la maison, les discussions qu'il y a à la maison, j'écoutais et je parlais pas beaucoup, etc. Je suis quelqu'un de discret à la base.
Non, ça se voit pas.
Et ça se voit
Non,
pas?
je rigole. Ça se voit
Et
que ça se voit pas.
du coup, je connais le trait de caractère de chacun de la
Ouais,
famille.
des frères et sœurs,
Et du coup, je prends du bon de partout.
ouais. Tu
J'essaie
dis.
de, j'essaie de, en tout cas, j'essaie de prendre du bon de partout.
C'est bien. Quand t'es le petit frère de quelqu'un, comment tu fais, malgré le modèle qu'on te donne, pour quand même développer ta propre personnalité? En
Bah,
fait, comment tu, à quel moment tu te dis, ouais, non, ça, c'est pas moi. Moi, je veux pas faire comme ça. Et
c'est
est-ce que
avec
tu
le
fais ça?
temps, c'est avec le temps que je l'ai développé. Et c'est tout simplement que quand j'étais plus jeune, je m'inspirais beaucoup d'eux. Même aujourd'hui, je demande conseil, mais ça ne veut pas dire que je vais faire forcément ce qu'ils vont me dire. J'ai aussi en fait, j'ai mon caractère qui s'est développé, j'ai ma vision, j'ai mes objectifs, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux demander conseil, mais pas forcément faire ce qu'ils me disent.
D'accord,
Mais
ok.
je prends ce qui est bon dans leurs
D'accord,
conseils.
ok.
C'est toujours bien d'avoir plusieurs avis
Ça c'est vrai, ouais, ça
avant
c'est
de prendre des
clair.
décisions importantes ou quoi que ce soit.
Ouais, c'est clair.
Au lieu d'essayer de foncer seul et peut-être se planter, quoi.
Quel rôle elle joue pour toi, ta mère, dans ta vie, dans ta réussite? C'est ta conseillère, c'est ta coach, c'est ton sponsor, c'est quoi en fait? Même si une maman, elle peut avoir toutes les casquettes d'ailleurs.
Elle a toutes les casquettes. Et ma mère, c'est la référence. Elle a un parcours assez spécial, elle aussi, des sous-côtés. C'est une femme qui s'est mariée très jeune. Elle s'est mariée très jeune et malheureusement, elle est devenue veuve très jeune aussi. Parce que voilà, il faut savoir que j'ai perdu mon père quand j'avais 3 ans. Et depuis, je vis avec ma mère et sachant que ma mère, quand elle est devenue veuve, elle avait 5 enfants à sa
D'accord,
charge.
ok.
Elle avait eu 5 enfants. Donc c'était assez difficile pour elle. Et elle a passé sa vie en fait à se consacrer sur notre éducation. Elle n'avait pas de permis de conduire, donc elle voulait passer. Et des fois, elle me parle de son code, par exemple. Quand elle me parle de son code, comment elle a passé le code,
Ouais.
elle m'a dit, j'ai appris le français
En passant le
en
code.
passant le code. Et je lui dis, ouh, c'est. T'imagines déjà que le code, c'est assez spécial, il y a des pièges, il y a plein de choses. Et elle, en plus de ça, elle avait un handicap, c'était le français.
C'est clair, ouais,
Elle
c'est clair.
connaissait rien. En plus, nous, les Pakistanais, nous, on est loin du français, tu vois.
Ouais.
C'est pas comme
Ah
si
oui,
on a
c'est
été colo.
anglophone. Ouais,
Ouais,
c'est
c'est
vrai.
anglophone.
C'est
Donc,
anglophone.
tu vois, elle avait des notions d'anglais, mais le français, elle connaissait rien du tout.
Ouais.
Donc, elle apprenait sur le champ. Elle était au code, elle a dit, je comprenais pas. Et on a grandi en fait dans une petite cité où il y avait d'autres femmes qui étaient un peu. D'autres femmes qui parlaient pas très bien français, qui essayaient de passer le code, etc. Et qui lâchaient l'affaire en fait.
Ouais,
Et
et elle, elle a
c'est un
été jusqu'au
cas.
bout, quoi.
Et elle a été jusqu'au bout. Parce qu'elle n'avait pas le choix en fait, c'était
Ouais,
ça.
c'est vrai,
Elle
c'est
savait que si elle. C'est pas nous, on était des petits, on était tout petits nous à
vrai. Ouais.
l'époque.
Donc oui, de toute façon, elle avait... Enfin, les enfants n'étaient pas suffisamment grands pour
Ouais.
l'aider ou pour faire certaines tâches, quoi.
Voilà. Donc il fallait que ce soit elle qui le fasse. Donc elle l'a fait et je me en rappelle encore, après elle a passé son permis, elle nous a annoncé qu'elle avait eu son permis de conduire, c'était waouh, truc de malade, elle a le permis maman, c'est bon et tout ça. Et du coup, c'était un. Du coup, déjà, je me dis, c'est assez fort de se dire qu'elle était vraiment déterminée
Ah, c'est clair.
pour se dire que si je veux évoluer dans ma vie, bah, faut que j'ai mon permis, faut que je puisse emmener. En fait, c'était pas que se dire que j'ai mon permis, donc je vais pouvoir aller faire les courses ou quoi que ce soit. Non, c'était pour pouvoir faire des sorties avec ses enfants en voiture
Ouais.
et se dire que voilà. Et surtout que c'était un challenge parce que quand elle a perdu son mari, il y a ses frères et sœurs, ils disaient, ouais, reviens en Pakistan, etc.
C'est vrai. Ah oui,
Ouais.
c'est
Ils
vrai,
m'ont
ça
dit,
c'est...
reviens
En
en
fait, ça c'est...
Pakistan, t'inquiète
C'est
pas.
vrai. Ouais, c'est le truc logique en fait que la
Ouais.
famille va te dire en fait maintenant enfin, ton mari il est plus là donc en fait qu'est-ce que tu fais là-bas quoi seul
Voilà.
avec les
Voilà.
cinq enfants quoi.
Exactement. Et elle a dit, non, je reste ici, c'est mieux pour mes enfants. Et en plus, elle risquait de dépendre. Elle voulait pas dépendre de ses frères ou de ses
Donc
sœurs.
indépendante.
Indépendante. Et du coup, pour elle, c'était aussi un challenge de se dire que bah. Maintenant, j'ai pris cette décision de rester en France. Il faut que je me donne à fond pour y arriver,
Faut que je
à
l'assume
mes
jusqu'au bout
objectifs.
quoi.
Il faut que
Ouais.
j'assume jusqu'au bout. Et donc, elle a fait ça. Après, donc quand elle avait sa voiture, on faisait nos petites sorties. Avec cette voiture, elle a réussi à nous emmener. On avait de la famille en Hollande. On est parti leur rendre
Trop
visite.
bien.
Ma mère qui conduisait. C'était ouais, c'était les aventures quoi qui commençaient. La petite famille qui se déplaçait un peu. Et puis, c'est vrai que ma mère, pour qu'on ait une certaine ouverture d'esprit, elle nous faisait beaucoup voyager. Et elle économisait pour que chaque été on puisse faire une sortie en famille, voyager un peu, rencontrer la famille. Donc elle voulait qu'on ait ça en nous, et pour qu'on l'ait, elle nous faisait beaucoup voyager chez la famille, etc. C'était des petits
D'accord.
voyages, mais c'était agréable.
Ouais, mais du coup, ça te permet, en fait, dès que t'es enfant, de t'ouvrir, en fait, au monde, quoi. De comprendre que
Ouais,
le monde,
voilà.
c'est pas juste là où tu habites, ton quartier, ton périmètre, et qu'il y a plein d'autres trucs autour.
Et elle se disait, non, il faut que mes enfants ils soient ambitieux dans la vie, il faut qu'ils voient le monde, faut que. Et c'est ça qui a créé l'ambition certainement en nous, je sais pas. C'est le fait d'avoir voyagé, d'avoir vu plein de choses que ma mère elle voulait qu'on voie. Après, elle passait beaucoup de temps avec nous. Il y avait ma plus grande sœur qui s'intéressait beaucoup à l'informatique parce qu'elle apprenait ça à l'école. Elle a dit, ouais, c'est trop bien, aujourd'hui j'utilise Internet, tu peux faire ça, tu peux faire des recherches, etc. etc. Et elle en parlait avec ma mère. Et ma mère, elle a dit, elle a vu que ma sœur, ça l'intéressait d'avoir un truc comme ça. Ma mère, elle a économisé, etc. Elle nous a acheté un ordinateur. À l'époque où c'était très rare d'avoir un ordinateur. Donc, quand on a eu l'ordinateur, ben, on utilisait l'ordinateur, mais en vrai, un ordinateur seul, tu peux pas faire grand-chose. À part à l'époque, je crois que tu avais Encarta ou je sais pas quoi, là, tu pouvais faire des encyclopédies sur ordinateur. Tu peux faire des recherches, mais bon, c'est très limité, quoi. Ou jouer à un jeu vidéo ou des trucs comme ça. Bah après, moi je suis parti pareil, j'ai voyagé, je suis parti chez mon oncle qui habitait aux îles Canaries. Lui il avait un ordinateur, mais il avait internet. Et là on s'est dit, mais c'est ça en fait le vrai truc.
C'est ça les
C'est
vrais
ça,
bails.
ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Nous on est avec un ordinateur, mais ça sert à rien, il faut internet. Et ça, c'était mon grand frère Ousmane qui est ingénieur en informatique. J'étais avec lui en vacances et Bilal aussi, mon plus grand frère. Et on est revenu du coup en France et Ousmane il dit à ma mère, il dit, ouais. Maman, il faut qu'on ait Internet. J'ai vu ton frère aux îles Canaries, il a Internet, c'est trop bien. Tu peux faire ça, tu peux appeler au pays, tu peux faire plein de choses.
Et en fait, il
Ouais,
savait dans quel sens
il savait dans quel sens
il fallait faire la
approcher.
demande.
Et ma mère, elle a vu ça l'intéressait beaucoup. Elle a dit bon, bah du coup, elle a pris un forfait. C'est un petit forfait, tu vois. Et après, bah lui, il commençait à kiffer. Et puis même moi, enfin, quand il utilisait l'ordinateur, des fois, je m'assieds à côté de lui, on faisait des
Tu
recherches
regardes et tout,
ensemble, je regarde ce
ouais.
qu'il faisait, etc. Et après, elle a fait un hors-forfait. Mais un gros hors-forfait. Il a fait un gros hors-forfait. Du coup, ma mère, elle a fait, mais attends, tu t'en rends compte, c'est énorme, là, ce que tu viens de faire. Et on a dû résilier le contrat. On a résilié le contrat et tout ça. Mon frère, il est dégoûté. Il fait purée, il n'y a plus Internet. Moi, c'est ce qui me passionne. Internet, c'est ce qui me passionne. Et du coup, ma mère, elle voit qu'il est trop dégoûté, tu vois. à son anniversaire, elle a pris un forfait ADSL. Alors, c'était le cadeau de malade pour lui.
Ouais.
C'était Internet illimité.
Ah oui, alors là, c'est bien.
C'était top. Donc, pareil, ADSL, à l'époque, c'était pas du tout répandu. Quand je disais, quand j'étais dans mon lycée, c'est quand je disais, ouais, j'ai l'ADSL, ils disaient, ouais, t'as l'ADSL, c'est un truc de malade, quoi.
Mais donc, vous êtes une famille tech, quoi.
Ouais, tech, en fait, depuis le départ. Bah oui, si tu regardes, on est. C'est vrai en plus. Bah en fait, c'est ma mère, elle nous a donné les moyens pour qu'on le devienne.
Ouais. Et en fait, quand tu vois comment elle est et tout ce qu'elle t'a inculqué, quel genre de père tu veux être pour tes enfants?
C'est vrai que je veux être pareil que ma mère. Je veux vraiment aller dans le sens de mes enfants, en fait. Je veux vraiment exploiter le potentiel qu'ils ont. Bah pourquoi pas faire un effort supplémentaire. C'est vrai que c'est un travail sur soi.
Alors,
mais il faut le faire.
Là, je t'arrête parce qu'en fait, moi, je me pose toujours la question. En fait, pourquoi est-ce que quand tu fais partie d'une minorité, donc ça peut être la minorité des femmes, ça peut être la minorité des Pakistanais, ça peut être la minorité des musulmans, ça peut être la minorité des Noirs, tout ce que tu veux, pourquoi tu dois toujours avoir cette espèce de devoir d'exemplarité? En fait, quand on est dans une minorité, on te dit toujours, entre guillemets, il faut que tu sois irréprochable parce que sinon, si tu fais un truc, tu le fais au nom de ta minorité.
C'est vrai.
Tu vois, ce que les gens qui ne sont pas dans une minorité n'ont pas, en fait. Quand Charles Dupont, il fait un truc, bah, c'est Charles Dupont que ça concerne. C'est pas tous les Blancs qui sont en France.
Ouais.
Tu vois?
Ouais.
Et donc, du coup, en fait, moi, je trouve que... En fait, nous, on grandit avec ce truc de, en gros, ne fais pas ça parce que si tu fais ça, on va dire que tous les Noirs sont comme ça. Ou ne fais pas ça parce que si tu fais ça, on va dire que tous les Pakistanais sont comme ça. Est-ce qu'on doit être... Tu vois, je pense que dans notre discours, il faut qu'on se dise, il faut qu'on soit bon parce que du coup, on a des ambitions d'excellence, parce qu'on pense que pour ton développement personnel à toi, il faut que tu sois... que tu te donnes toujours les moyens d'avoir ce que tu veux et tout, ne cours pas à l'excellence ou à l'exemplarité ou à la perfection pour que l'autre groupe n'ait rien à te reprocher. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et ça, je trouve que dans l'angle... c'est hyper important parce qu'en fait, à partir du moment où on commence à se dire, si moi je dis par exemple à Aliou ne crache pas par terre, sinon ils vont dire que tous les Noirs ils crachent par terre. C'est pas la même chose que quand je lui dis Aliou ne crache pas par terre parce que cracher par terre c'est sale et en plus bah, tu mets des microbes, enfin tu vois.
Ouais,
pas,
ouais, ouais.
Tu vois, parce que lui, si je lui dis, je lui dis que c'est par rapport aux autres qu'il doit pas faire ça, déjà il va se dire que les autres ont droit de regard sur ce qu'il fait et qu'il doit se conformer à une façon d'être qui est celle que les autres attendent. Et ça, je trouve que dans le positionnement qu'on doit avoir en tant que minorité, bah, c'est hyper important, en fait. C'est un truc sur lequel on doit être hyper vigilant. Mais en fait, dois être bon. En fait, le truc, c'est qu'on doit être bon et bien dans le carré, peu importe, en fait, qui nous kiffe ou qui nous kiffe pas, en fait.
Ouais.
C'est ça, le truc.
C'est vrai.
Tu vois, avant, nos parents, ils pouvaient se poser la question, comment je fais? En fait, eux, ils avaient ce problème d'intégration. Il faut que je m'intègre, il faut que je sois accepté, en fait. Mais en fait, nous, à partir du moment où t'es né dans ce pays-là, ils t'acceptent pas, en fait, t'es là. Je veux dire, t'es pas... je veux dire, t'as égalité, même score, que n'importe quel autre enfant qui naît sur le territoire. Donc la question de l'acceptation et de l'intégration, elle est différente par rapport à la génération d'avant. Et moi, je pense que c'est un truc qu'il faut qu'on inculque et qu'on transmette en fait à nos enfants. C'est plus une question d'acceptation ou d'intégration, c'est une question de imposition. Faut que je me calme.
Non, c'est exactement ce que tu veux te dire. Moi, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis.
J'aimerais bien que dans le gouvernement, eh ben, bah tu vois, quand il y avait Christiane Taubira, mais je kiffais grave. C'était une vraie représentation. Comment on fait pour qu'il y ait plus de représentation? Bon, là, je te donne ma réponse, parce que moi, je pense qu'il n'y en a pas assez. Mais toi, est-ce que tu penses qu'il y en a assez ou pas?
Non, pas du tout. Pas du tout, il n'y en a pas assez.
Comment on fait pour qu'il y en ait plus?
Bah, c'est à nous de se donner les moyens pour s'imposer, en fait. Après, c'est vrai que c'est pas lié qu'à nous. Il faut qu'en face, il y ait aussi un effort, un peu de flexibilité sur ça, à ce niveau-là.
Une ouverture.
Une très grande ouverture. Après, l'ouverture, moi, je sens qu'il y a une ouverture qui est en train de s'instaurer de plus en plus.
Omer, si demain tu es nommé ministre de l'égalité des chances, c'est quoi tes plans d'action?
Moi, tout simplement, je dirais, je demanderais aux gens d'être ce qu'ils sont. Et je donnerais beaucoup plus d'importance à leurs compétences et au mérite.
D'accord.
Pour moi, il faut donner des chances aux personnes grâce à ce qu'ils veulent et ce qu'ils valent vraiment. Pas en fonction de leur couleur ou leurs origines.
Ouais.
Voilà. Donc, c'est à partir de là que l'égalité, pour moi, c'est... c'est à son...
Elle a du sens.
Voilà.
Méritocratie, quoi.
Exactement.
Ouais, c'est bien. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Et si on devait, faire des actions pour les enfants, qu'est-ce que tu ferais pour que ton ministère, il ait un impact positif sur la vie des enfants?
Sur la vie des enfants, si on parle sur l'éducation des enfants plutôt, moi je pense que le système scolaire, je le retravaillerais un peu. Parce que le système scolaire, il est spécial. On te pousse en fait à aimer avoir des bonnes notes. Et travailler pour avoir un bon travail au final. Avoir des bonnes notes, avoir un bon diplôme, avoir un bon travail. D'accord ? Mais en fait, on n'arrive pas à créer en toi cet amour pour le savoir avec un grand S.
C'est vrai.
C'est, en fait, on apprend des choses. Pourquoi ? Parce qu'on veut une bonne note. C'est ce que moi, j'ai constaté. Après, il y a aussi des bons étudiants qui aiment le savoir, etc. Donc, ils apprennent pour eux aussi. Mais moi, j'ai remarqué, et c'est un constat que j'ai fait, c'est un constat personnel, qu'on va à l'école, on se dit il faut que j'ai une bonne note, il faut que j'ai un bon diplôme, il faut que j'ai un bon travail. Et c'est ce parcours-là qui me déçoit. Je veux que l'école il soit fait de sorte à ce que nos enfants, plus tard, ils aiment en fait apprendre vraiment pour eux d'abord avant d'apprendre pour les bonnes notes.
Ouais, c'est vrai. Éveiller la curiosité en fait et l'amour de l'apprentissage.
L'amour de l'apprentissage, c'est exactement ce terme-là.
Ouais.
Et j'aimerais rapidement... citer un ami à moi qui a toujours eu l'habitude de me dire, il s'appelle Makadi Akite, c'est un ami d'Orléans, et il disait tout le temps que depuis la maternelle, on est formaté pour le matériel et on oublie que la réflexion est éternelle.
C'est vrai, c'est une belle expression ça.
C'est une belle expression, bon je ne l'ai pas cité exactement comme lui il avait l'habitude de citer, et c'est très beau quand il le disait à chaque fois. Et la raison, en fait, c'est vrai qu'on a un formatage, et ce formatage, c'est que depuis tout petit, c'est le travail, au final, le métier qu'on va faire, on veut une belle maison, on veut une belle voiture, etc. Mais on ne sait pas que la puissance avant tout, c'est le savoir. Et c'est cet amour que moi, j'apporterai en tout cas à mes enfants.
Ouais, ouais. Et à tous les enfants dont tu seras ministre.
Oui, je serai ministre, oui, donc je dirai à tous les enfants que c'est ça qu'il faut avoir, c'est l'amour pour l'apprentissage qui est important et pas forcément que les bonnes notes.
Je suis bien d'accord avec toi.
Il y a des personnes, tu sais, ils n'ont pas d'éducation, mais ils ont beaucoup, beaucoup de culture et beaucoup de savoir.
Ils se forment eux-mêmes. Je suis tout à fait d'accord avec toi.
Il y a des personnes qui se forment eux-mêmes et ils sont noyés dans des livres et ils n'ont pas forcément fait d'études,
ouais.
Ils n'ont pas de diplôme.
Ouais.
Donc aujourd'hui, ces personnes-là... on ne doit pas leur porter d'importance parce qu'ils n'ont pas de diplôme. Non, on doit leur porter d'importance parce qu'ils ont du savoir.
Exactement.
Le diplôme, c'est juste c'est un bout de papier, certes, parce que voilà, on a combattu, on a été jusqu'au bout, etc. On a travaillé dur pour l'avoir. Mais la personne qui était noyée dans le livre et qui était passionnée par les bouquins, etc. Ben, c'est une personne qui peut être encore beaucoup plus compétente que celle qui a fait des études.
Absolument. Je suis bien d'accord avec toi. Mais écoute, ça, c'est des beaux plans d'action. Hein. Je prends.
Ouais.
Les deux, à 100%.
Super. Donc, tu votes pour moi?
À fond. Je serai même dans ton cabinet. Tu rigoles ou quoi? Je vais être chef de cabinet. Tu rigoles.
Super.
À fond. Non, c'est...
C'est bon, on va monter une équipe, là.
Ouais. Non, très, 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 très bien. Quand on entend les plans d'action d'Omer, pas de doute, papa ne peut être que d'accord.
Il y a plusieurs réussites. On peut réussir sa vie sans pour autant être archi-diplômé.
Merci d'avoir écouté cet épisode de Mamadou et Binta, les conteurs de belles histoires. N'hésitez pas à vous abonner sur SoundCloud, iTunes ou Spotify et à nous laisser vos commentaires. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode.